Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Bonsoir et bienvenue au grand dialogue. Ce soir, nous allons parler d'insécurité. Montée de la violence cette semaine au nord et au centre du pays. Des casques bleus et des soldats de l'armée malienne ont été tués dans la région de Mopti et de Ségou à un jour d'intervalle. À cela s'ajoute l'assassinat d'un élément de la garde nationale par des individus armés non identifiés à Gao. Des jeunes de la ville auraient été également blessés au cours de cette attaque. Une situation qui a provoqué la colère de la jeunesse de Gao. Invités sur ce plateau, Abdoul Karim Samba, membre du Conseil régional de la jeunesse de Gao, Baba Larabi, inspecteur du Trésor à la retraite, Ibrahim Ikassa Maïga, juriste. Je suis Fatmata Togola.
Le grand dialogue.
La recrudescence d'attaques meurtrières de ces derniers moments fait dire à des observateurs que nous assistons aujourd'hui à un chaos sécuritaire au Mali. Qu'en dites-vous, monsieur Maïga?
Merci bien, madame. Je commence par m'incliner sur la mémoire des personnes disparues de façon aussi cruelle. Mais ce n'est que la suite d'un chapelet de décompte macabre que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années maintenant au Mali, tout en dans l'espoir que les choses s'améliorent, mais ça va de mal en pis et les pouvoirs publics peinent à maîtriser cette situation, même si des déclarations à la volée sont faites de part et d'autre par les autres autorités. La fermeté avec laquelle on affirme la volonté de lutter contre ce fléau, l'insécurité, le terrorisme et tout va, jure avec la réalité du terrain. Maintenant, nous ne sommes pas surpris que tant que le dispositif stratégique de l'État ne change pas par rapport à cette lutte, que les résultats ne changeront pas. Nous aurons toujours, et malheureusement, à faire face à cette faiblesse-là de la situation. Maintenant, ce qui s'y ajoute, c'est cette crainte que nous avons toujours eue par rapport à la communautarisation de la crise. Et nous avons beau dire que nous sommes d'un peuple séculaire, le Mali, où il y a eu toujours le brassage intercommunautaire. On n'arrive pas toujours à distinguer qui est qui parce qu'il y a beaucoup d'implications. Mais ce qui se passe depuis quelques jours laisse à croire que malheureusement, nous tendons vers cela parce que quand la communauté arabe a vu deux de ces jeunes disparaître et un a été retrouvé, malheureusement tué de façon assez macabre, je pense qu'il y a eu des relents de défense et maintenant de représailles contre la supposée communauté responsable de cela, les communautés sédentaires noires. Et c'est allé en crescendo et finalement nous avons vu que la réponse aussi violente est venue donc de la communauté de Gao. Donc je dis, il faut faire très très attention à ne pas tomber justement dans ce piège-là. Véritablement.
Alors, Monsieur Larabi, selon vous, est-ce que c'est réellement le cas que le Mali est dans une situation de chaos sécuritaire?
Le mot est exact. Je m'associe à Monsieur Maïga pour dire également, je présente les condoléances. En fait, il y a déjà un phénomène d'accoutumance qui est en train de se faire parce qu'on a l'impression que les autorités, il vient de le dire tantôt, ne font pratiquement rien pour que ça change réellement. On ne les sent pas du tout. Quelles que soient les déclarations, je le répète, parfois il faut répéter. On ne pourra pas dire à Gao félicitations pour ce qui s'est passé. Personne n'invite les autres à la violence. Il faut se dire cependant qu'on a le droit de se poser de sérieuses questions et quand les gens sont tués comme ça, il ne peut pas ne pas le sentir, l'exprimer. Il ne peut pas ne pas se révolter. C'est aux autorités de prendre toutes les responsabilités. Récemment, j'ai entendu avec France Inter que des bérets rouges seraient revenus vers le Niger pour manque de munitions. On a l'impression plus l'État déploie institutionnellement quelque chose pour l'armée et plus il dépense, plus en réalité l'insécurité. Mais c'est un phénomène observé ailleurs parce que tout près en Côte d'Ivoire, au moment où on forme, on reforme l'armée et les militaires, ils deviennent de plus en plus inefficaces. Et ce qui, à un observateur qui n'a pas besoin d'être averti, on a l'impression que le problème sécuritaire véritablement, depuis 28 ans, les gens ne font pas attention à ça parce que ça a commencé en novembre 90. De novembre 90 à maintenant, ça fait 28 ans pratiquement. Ça ne change pas. Ça change pas. Et mieux, on peut dire quand même qu'il y a un repère très important à partir de l'accord d'Alger. Il y a eu véritablement une recrudescence réellement, comme il le disait, comme si en réalité l'accord n'a servi que cela. Et tantôt, parfois, on a entendu dire les autorités que ceux qui ont signé l'accord, ce ne sont pas eux. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous dire en réalité ceux qui amènent à cela? Et puis, on se pose la question, parce que après l'accord, c'est devenu plus grave. Pourquoi avoir signé avec des gens qui ne sont pas capables de sécuriser et de laisser? Et on rentre dans des vocables nouveaux qui ne signifient pas quelque chose, qui sont des enfumoirs, c'est pour faire de l'enfumage, c'est-à-dire on parle de djihadistes, on parle d'islamistes, on parle de terroristes. Islamiste et djihadiste, un musulman ou bien tout juste un homme qui croit se demande ce que ça signifie. Parce que c'est des mots à la limite qui sont un peu positifs, bien qu'en réalité on sait que quelque part ça a un sens. Au Mali, on ne sait pas parce que on ne sait pas si les autorités identifient ce qu'ils appellent islamistes, djihadistes, à moins que ceux-ci ne leur disent que je suis islamiste, djihadiste. En quoi ils le reconnaissent, mais par rapport à un mot qui s'accepte quand même, c'est la terreur. Il y a terroriste, on peut comprendre le mot terroriste, mais là également, il faut faire la nuance. Les touristes ailleurs, ils agissent par surprise, ils surprennent et ça fait de la terreur. Au Mali, les terroristes, on ne les a jamais situés. Et ce sont eux qui viennent toujours vers la population malienne, vers l'armée malienne, et les tue. On se demande si c'est des extraterrestres qu'on ne peut pas localiser sur le territoire avec tout ce qu'il y a comme radar. Encore faudrait-il expliquer que, en réalité, ce qui effraie une souris, en réalité, est imperceptible pour un éléphant. C'est-à-dire qu'en réalité, les hommes qui sèment la terreur chez nous, est-ce qu'en réalité, avec tout ce que l'on a comme armée, et tout ce que l'on a comme moyen, on est incapable de les maîtriser ou on ne veut pas les maîtriser. Merci.
Alors, M. Samba, que pensez-vous de toute cette situation?
Oui.
Quelle est votre observation? Oui, êtes-vous avec nous?
Oui, j'attends.
Oui, je disais, quelle est votre observation par rapport à cette observation-là, cette analyse, disant que le Mali est dans une situation de chaos sécuritaire?
Je remercie la radio de Mali. Je remercie d'avoir la mémoire de gens qui ont perdu la vie. En tout cas, moi, la situation est celle de lundi, mais je dis que lundi. C'est-à-dire que d'abord, les gens sont en train de profiter comme on a fait de la faiblesse de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi est que du fait qu'on est en train de donner des opportunités à des communautés de faire des favoritismes entre comme on appelle les communautés. Et là, en train de dire, il y a aussi certaines personnes n'ont pas à avoir comme on appelle des monopoles.
Monsieur Samba, nous allons revenir à vous. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Nous allons revenir à vous. Oui. Alors, Monsieur Maïga, selon vous, quelle est la situation actuelle à Gao?
La situation actuelle à Gao, elle est très incertaine. Je l'avais dit tantôt, quand justement des jeunes avaient disparu dans la commune de Taboy, dont je suis un élu communal justement, et qu'un d'eux a été retrouvé mort dans des conditions assez déplorables. Alors, il y a la communauté arabe dont ils sont ressortissants, qui s'est alors transposée à Gao et qui a voulu faire pour un premier temps une marche, organiser une marche, exiger que tous les commerces soient fermés et autres. Les gens ont dit, attendez, faut chercher à comprendre. Et justement, tout de suite, M. Samba vient de le dire, nous ne sommes pas aux premiers morts. Peut-être qu'on compte les tout premiers morts de cette façon dans la communauté arabe, mais il y a eu bien des morts. Mais les gens n'ont pas réagi de cette façon, justement. Okay, donc, elle dit, sachons raison garder, remettons-nous aux autorités pour qu'elles procèdent aux enquêtes nécessaires. La justice est là, et ainsi de suite. L'administration, les militaires sont là, justement, pour les investigations. Et alors, donc, mais cela n'a pas été. Et finalement, il y a eu des réactions plus ou moins violentes, à commencer par l'incursion dans le village de Barissadi, okay, ou dans la commune de Sony, où justement le mort avait été retrouvé. Et finalement, ils ont tiré dans le tas. Ils sont rentrés dans un village, ils tirent sur tout ce qui bouge. Il y a eu beaucoup de blessés à l'œil, au bras, au pied. Et ils ont incendié beaucoup de maisons. Ça s'est passé. Et c'est passé inaperçu. Simplement, c'est comme si c'était des représailles. Ensuite, à Gao, hier, nous avons assisté. Dès la nuit tombante, nous avons assisté au même scénario, c'est-à-dire des hommes en armes se promènent dans la ville et tirent sur tout ce qui bouge. Et il y a un garde malien qui en est décédé. Il a reçu en plein, à bout portant, des balles, des jeunes qui ont reçu des balles aussi dans les pieds, ainsi de suite. Et finalement, il y a eu une réaction populaire de ce genre et qui a continué ce matin. Nous sommes d'accord, mais ceux qui l'ont fait, des dernières informations, avaient littéralement fui la ville. Nous sommes d'accord, il est resté quelques-uns qui ont continué à tirer des armes. Donc la situation est chaotique. Mais ce que nous déplorons, c'est l'absence, et Samba l'a dit, c'est l'absence de l'État. Nous ne sommes pas à Kida, nous sommes à Gao. Mais à Gao, l'État est censé exister. L'État, depuis plus de 2 ou 3 ans, impose sa marque. Et même, a même contré une manifestation jeune où des morts sont... Donc ça veut dire que l'État est présent. Donc pourquoi l'État laisse cette situation pourrir alors qu'on pourrait rapidement instaurer un couvre-feu? Nous sommes d'accord pour calmer le jeu et recueillir, rencontrer ceux qui se plaignent, les communautés qui se plaignent, mettre balle à terre, prendre des mesures pour faire les enquêtes nécessaires. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais si on laisse la justice privée se développer, la justice communautariste, ça veut dire la loi du plus fort, mais ça va aller crescendo et je crains pour notre pays de ce point de vue. Sachant que Gao est le verrou de l'unicité du Mali. Ne perdons pas cela de vue. Ça a toujours été et ça l'est toujours. Donc il faudrait que l'État marque sa présence, que l'État joue son rôle régalien et assure la sécurité, régule la justice, pour que ceux qui estiment être victimes de quelque chose puissent être entendus, puissent être écoutés et justement qu'ils leur répondent. Mais véritablement, les points, moi j'ai suivi un peu ce que Samba a dit, il y a la faiblesse de l'État, mais il y a aussi une sorte de favoritisme entre les communautés. Comme si telle communauté est bien placée pour être victime, tel autre ne l'est pas, et tant, quand celle-là est victime, ok, il y a tous les droits pour même se faire une justice privée. Et j'ai dit non, allez, alors il faut mettre balle à terre, il faut que l'État intervienne.
Ok, alors M. Samba, qu'avez-vous ajouté au propos de M. Maïga concernant la situation à Gao?
Bon, la situation à Gao, il l'a dit, hein. Moi je pense que ce qui est en train de se passer actuellement à Gao est aberrant, et inacceptable. Inadmissible, ma chère, parce que on se dit quand même que la situation qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est du terre à terre. On n'a pas besoin d'être un expert pour savoir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils l'ont dit, c'est le représailles de ce qui s'est passé à Taboy, dans la commune de Taboy, cercle de Bourène, il y a une semaine de cela, ou juste après ça. Et regarde, imaginez-vous un peu. Une situation qui s'est passée à Taboui. Mais les représailles, c'est sûr, comme on appelle dans la commune urbaine de Gao, où des individus armés s'élèvent volontairement, en toute liberté, demandant, comme on appelle, aux gens de fermer leurs boutiques et de rentrer. D'accord, personne ne peut être indifférent à la mort, comme on appelle, en tant qu'humain. Ça doit toucher tout le monde. Ça, on n'en disconvient pas. Chacun a le droit de montrer son mécontentement par rapport à des morts de ce genre. On n'a pas condamné ça. Mais on s'est dit que chaque matin, chaque 2 heures, si tu fais l'évaluation de la région de Gao, chaque 2 heures de temps, c'est une personne, c'est un sédentaire comme on a quelqu'un qui perd la vie. À travers, comme on appelle, dans les différents forêts, les petits marchés des différents villages, ou comme on appelle au centre-ville même de Gao, ou ailleurs. Mais ça n'a jamais été l'objet d'une révolte, comme on appelle, de cette ampleur-là. Est-ce que vous voyez? Il y a eu des sédentaires qui ont disparu plus de 3 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle main ils se trouvent. Le Gao ne s'est pas soulevé par rapport à ça. Mais on s'est dit que c'est parce qu'il y a eu deux jeunes arabes, comme on appelle, on ne sait pas dans quelles circonstances ils ont été tués. Cela va coûter, comme on appelle, la nivacine à l'ensemble de la région de Gao, ou comme on appelle des petits enfants de 15-16 ans armés, circulent dans la ville, dans les véhicules, sur les gens. On dit que c'est inadmissible. On a interpellé l'État. On a montré, comme on appelle, le rôle de l'État, ce qu'il devrait faire, d'assumer ses responsabilités. Est-ce que vous voyez? Mais malheureusement, on voit que c'est quand les sédentaires seulement posent des actes qu'il faut chercher, comme on appelle, à rendre que la justice peut jouer son rôle. Mais quand les autres ethnies, comme on appelle, posent ce genre des actes, c'est des gens qu'il faut amadouer, c'est des gens qu'il faut leur montrer que c'est comme si le Mali leur appartient. Alors qu'on ne peut pas continuer. On est dans une région où les communautés sont condamnées à vivre ensemble, mais dans la légalité, dans une position, comme on appelle, où chacun a droit à s'exprimer, à chercher, comme on appelle, ses droits. Mais d'hier à aujourd'hui, je ne vous mens pas, le ras-le-bol qui est en train de se passer, c'est généralisé. Personne ne peut te dire que c'est telle personne ou c'est tel mouvement ou c'est telle association ou telle organisation qui a organisé ce qui a commencé hier soir. C'est un mouvement d'ensemble. C'est venu spontanément parce que tout le monde en a marre. Est-ce que vous voyez? Nous, en tant que responsables de jeunes, on a essayé de recadrer la situation pour limiter les dégâts, ça c'est le premier aspect, mais aussi chercher à trouver même des responsables en cas de cas. Est-ce que vous voyez? Et là, tout ça, là, on l'a dit dans les rencontres qu'on a eu à faire, dans nos recommandations, nos revendications, même si l'État n'a pas les moyens de faire, comme on appelle, le cantonnement de tous les groupes armés à l'heure actuelle, il faut faire un pré-cantonnement. Le pré-cantonnement, c'est quoi? Il suffit de désarmer, comme on appelle, ceux-là qui n'ont pas été encore pris en compte par les mécanismes opérationnels de coordination, de les désarmer, les mettre dans un camp, leur donner à manger, une manière, comme on m'a dit, de retirer toutes les armes qui se trouvent, comme on appelle, entre les populations civiles. C'est ce qui est en train de nous causer des problèmes aujourd'hui. Et malheureusement, on a l'impression que d'hier, j'ai dit bien d'hier soir, depuis que la situation a commencé, jusqu'à 9h le matin, on n'a pas vu la présence, comme on appelle, de nos autorités. Il y a la garde nationale, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les FAMA, mais on n'a vu aucun mouvement. Aucun mouvement qui peut rassurer cette population-là à savoir qu'ils peuvent, comme on appelle, avoir conscience, ou bien ils peuvent se dire que nous sommes en garantie, on est sécurisés. La ville était laissée entre les jeunes,
seulement qui sont en train de montrer leur mécontentement. Et les Arabes qui ont montré comment on appelle sur leur maison, en tant que des fenêtres, ils tirent sur tous ceux qui bougent. Cela ne pourra pas continuer. Okay. Il faudrait qu'on arrête. Et on se dit qu'il faut qu'il y ait l'autorité de l'État.
D'accord, Monsieur Samba, nous allons revenir à vous. Alors, Monsieur Larabi, comme Monsieur Samba vient de le dire, c'est pas le premier mort, mais aucune révolte n'avait eu cette ampleur-là. Et que pensez-vous de cela?
Bon, je veux préciser mon nom d'abord. Mon nom, c'est Boukar Baba l'Arabe. C'est okay. Pas Larabi, Boukar okay, Baba l'Arabe. Oui, ce n'est pas un problème.
Ok.
Ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, et je ne sais pas, ma première impression, je crois sincèrement que ce qui s'est passé à Gao, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais je crois que ça va se terminer comme ça, et je crois sentir dans ces déclarations comme ça. Il ne faut pas qu'on s'étonne. Je voudrais citer André Glucksmann dans son livre « De Gaulle, où es-tu ?»« La défense est la base de la politique. Un État, c'est l'armée. L'État n'existe pas sans l'armée. Et nous savons que l'armée malienne et les autorités, tous ceux qui sont chargés de la sécurité, gendarmes, gardes et autres là, sont dans des bantoustans, ils sont cantonnés. Mon jeune frère vient de dire qu'à Gao, il y avait l'administration. Il n'y a pas l'administration. Le gouverneur est dans son bureau. Il y a une certaine condescendance et une certaine compréhension. En réalité, l'occasion fait, le larron, si ces gens-là ont fait des représailles, il ne faudrait pas qu'on oublie, c'est à Gao que l'on a fait le carnage du MOC dès qu'il est installé. Il ne faudrait pas que l'on oublie tout ce qui s'est passé par rapport à cette histoire-là. Et est-ce que ce n'est pas se moquer même de l'État parce que ces événements sont arrivés, et il y a très longtemps, ces événements sont arrivés quand les plus hautes autorités disent qu'ils vont sécuriser le territoire pour les élections. Et toutes les fois que les autorités, depuis Amadou Toumani, depuis tout le temps, toutes les fois qu'ils sont dans des initiatives comme cela, on a présenté des actes comme cela. Le mort, c'est leur mort, c'est vrai, ça a de l'importance, on est humain. Chacun a un parent, chacun a une frère, chacun a le sens de sa mort, de sa vie, quand une personne est morte. Mais on ne peut pas dire qu'on se met sur la mort d'une personne alors que la mort de plusieurs qui ont été froidement, cruellement assassinés n'a pas fait d'écume, n'a pas fait de vague. Il n'y a que l'État qui est interpellé. Et on ne dira pas à Gao de faire des histoires, mais il n'y a que l'État qui est interpellé. Mais l'État est interpellé il y a 28 ans. Nous ne sommes pas des griots de l'État. On aime l'État, ce sont nos frères, ce sont nos camarades, ce sont nos amis, ce sont nos parents qui gèrent l'État. C'est des Maliens tout court qui gèrent l'État, donc nos compatriotes. Si et lorsque ce sacrifice, le fait de tuer l'autre, devient une imprescriptible stratégie où on acquiert la capacité de se sacrifier, où on est sacrifié quand bon semble celui qui tient le fétiche. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien on est protégé par d'autres. Quand un État ne se défend pas, ou il est conquis, ou il est protégé par d'autres. En réalité, l'État malien...
C'est qu'il est bien au même.
Mm-hmm.
Oui, ça revient à la même chose.
Bon. Alors ça, tout ce problème, moi je ne crois pas sincèrement que... je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de truc, mais déjà, ne le souhaitons pas, parce qu'en réalité, voilà ce qu'on nous a dit, on est en train, on devrait, c'est même, je crois que ce n'est même pas fait, en train de passer tout Gao pour saisir les armes. Tout ce qui peut, moi, je suis sûr que ça ne se fera pas. Je ne suis pas naïf. Ça ne se fera pas.
D'accord. Oui, Monsieur Mega, vous voulez répondre
oui, en fait, j'ai dit, il y a une vacuité. L'État est censé occuper sa place. Un État absent, c'est antinomique. Le mot État vient de du latin status, quelqu'un qui est debout, présent, omniprésent, partout, à travers d'abord ses agents, à travers le renseignement, ok, de tout genre, pour prévenir toutes sortes de crises, toutes sortes de crimes ou autres infractions, et prévenir même la détérioration de la situation. Mais ça, on ne le sent pas. L'arabe l'a dit, l'État même est cantonné. L'État est... tant mieux. L'État est présent à Gao. L'État est présent. Il y a un sous-préfet à Bourem. Il y a un préfet à Bourem. OK. Mais, je dis, entre Bourem et Gao, entre Gao et Ansongo, l'État devrait, avec ces milliers de militaires que nous avons, de gendarmes, de policiers, de gardes, nous devrions pouvoir assurer la quiétude des populations. Quand même, c'est des milliers. L'année dernière, j'ai entendu près de 10 000 recrutements, parce que 5 000 dans l'armée, peut-être autant dans la police, la garde et tout ce qui va avec. Ce serait du même ordre cette année, mais c'est quand même des hommes qui peuvent, par leur nombre seulement, occuper le terrain et assurer la quiétude des populations. Aujourd'hui, les populations sont laissées à elles-mêmes. Nous sommes d'accord? J'ai dit, ça ne se doit pas. Il y a une vacuité qui ne s'explique pas. Et même quand des événements comme ça, aussi criards, arrivent, l'État devrait marquer sa présence en disant stop. OK? Je peux, par exemple, dès qu'il y a eu les premiers relents de marche et qu'on sait que ce n'est plus une histoire entre des victimes et des supposés bourreaux, mais c'est entre des communautés. Mais l'État devrait marquer sa paix en disant « Ok, il y a couvre-feu désormais. » Et déjà, accélérer ce désarmement-là ou cantonnement. Mais aujourd'hui, à Gao, n'importe qui circule visiblement avec une arme à feu. Et c'est normal. Et il côtoie les autorités, les gendarmes, les policiers, les gardes. On les côtoie parce que vous portez une arme, quelle que soit votre. Vous n'êtes pas obligé d'être en tenue, vous n'êtes pas obligé d'arborer une quelconque marque, okay, d'appartenance à un groupe armé ou à une corporation quelconque. Et c'est normal, ça ne devrait pas.
Mais est-ce que vous pensez que ce désarmement-là est réellement possible?
Mais c'est possible, il faut au moins commencer là où c'est faisable. Dans l'agglomération de Gao, c'est possible. Puisque l'armée est là, tous ceux qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à ces groupes ou qui ne sont pas dans le MOC, nous sommes d'accord, mais on devrait pouvoir les cantonner. Ou en tout cas, les faire qu'ils circulent sous autorisation, avec des MAC bien connus, puisque c'est vrai, il y a beaucoup de groupes armés là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai dit, n'importe quel kidam circule avec une arme. Et ça, c'est devenu normal, c'est le Far West. Et ça, c'est le rôle de l'État que d'empêcher cela.
D'accord. Alors, M. Samba, selon vous, pourquoi ce désarmement-là n'est toujours pas effectif?
Ce désarmement ne peut pas être... ne pas se faire comme on appelle sans l'autorité de l'État. C'est l'État qui va le faire. Personne ne va faire ça à la place de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que tout ce qui est en train de se passer en termes de banditisme, de tout ce que vous pouvez imaginer en termes de criminalité dans la région de Gao aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai répété, je vais le maintenir, c'est les mêmes groupes armés. Est-ce que vous voyez? Parce que tout de suite, l'armée, c'est là où moi je vais défendre un tout petit peu, montrer la situation difficile dans laquelle se trouvent nos forces de l'ordre. Parce que tout de suite, comme on appelle, on signale, on arrête, comme on appelle, des bandits ou bien des malfaiteurs sur la route de Gao-Bourem. On les amène, comme on appelle, au niveau de la gendarmerie. Demain, une heure de temps après, un groupe armé va pointer au niveau de la gendarmerie pour dire que c'est un de leurs éléments. Et il va montrer aussi la carte de ce mouvement-là. Est-ce que vous voyez, comme on appelle, la gendarmerie serait encerclée par les éléments de ces gens-là sous la pression. Des appels vont quitter au niveau, comme on appelle, de Bamako pour demander la libération, comme on appelle, de ces gens-là qui ont été arrêtés. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et les mêmes gens retournent encore pour poser des actes. Donc, du coup, cela en train de fragiliser, comme on appelle, les forces de l'ordre à bien jouer, comme on appelle, les rôles. C'est pourquoi nous, on a demandé qu'on délocalise carrément de la ville ces groupes armés-là. Mais faire fi si le cantonnement a besoin de beaucoup de processus, un pré-cantonnement qui sert à les désarmer, les donner à manger, ça l'État peut prendre ça en charge. Et ce qu'on demande aussi à notre État, l'État ne peut pas rester pour dire il faut que tout vienne comme en attaque des bailleurs. Il faut que l'État même pose d'abord le premier jalon pour sécuriser ces populations. Parce que vous voyez, en faisant ces pré-cantonnements-là, à travers ces pré-cantonnements, maintenant, des précautions seront prises pour dire désormais, si on voit une personne en ville avec une arme, on va te qualifier. On va te qualifier d'un bandit et tu seras comme on a perceptionné à la hauteur de l'acte que tu as posé. Les Silidio, l'opération Silidio, comme on appelle, qui a fait des succès à Gao. Madame Bema, posez-moi la question, pourquoi Silidio, comme on appelle, s'est arrêté, disparaître, c'est comme si ça n'a jamais existé. Parce que tout simplement, Silidio a apporté des résultats extraordinaires. Mais parce que ça ne fait pas l'affaire de certains, comme on appelle, bourreaux, ils ont mis la pression sur l'État. Je vais le dire haut et fort. Et du coup, comme on appelle, on a mis la situation de l'opération Silidio dans le tiroir. Et nous, on a demandé, même notre dernière marche contre les détonations de Barkhane, on a demandé le retour de cette opération Silidio. Parce que ça a amené des résultats dont les populations ont besoin. Est-ce que vous voyez? Eh mais le même vagabondage qui se passe, c'est les cartes, comme on appelle, de ces mouvements-là qu'on voit avec tous les vagabonds, comme on appelle, qui ont été arrêtés. Tous les bandits qui ont été arrêtés. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, on se dit que si l'État ne joue pas son rôle, l'État ne s'arrête pas, comme on appelle, à prendre ses responsabilités, à savoir que c'est l'autorité de l'État et que ces groupes armés sont dans l'obligation de se soumettre, comme on appelle, aux officiers de l'État, ça ne va pas aller. Et malheureusement, ces groupes armés n'ont aucune considération pour d'autres États. Cela nous a poussé à marcher, à montrer notre soutien aux forces de l'ordre, au SDS. On l'a fait une fois, deux fois, plus de cinq fois, on a marché ici à Gao pour dire que la population de Gao soutient, comme on appelle, ces femmes, soutient, comme on appelle, l'État dans ses actions. Une manière de fragiliser ceux-là qui ne sont pas là, comme on appelle, pour la bonne marche, qui sont toujours là pour fragiliser, comme on appelle, notre État. Mais on voit que c'est l'État même qui n'est pas présent. Si j'ai dit l'État n'est pas présent, ils sont là, l'État est là, comme on appelle, les emblèmes de l'État sont là, ils l'ont dit, le préfet est là, le gouverneur est là. Je me suis dit que maintenant, la seule chose qui reste, c'est de mettre une stratégie pour valoriser, comme on appelle, cette autorité de l'État. C'est ce qui manque, en fait.
Mais selon vous, à quoi servent les mesures prises pour faire face à cette situation, alors?
Là, les mesures.
Oui, à quoi servent donc les mesures qui ont été prises pour faire face à cette situation, s'ils ont les mains liées?
Bon, si les groupes armés.
Pardon?
L'État, alors.
L'État.
L'État, bon. Si je dis qu'ils ont les mains, ça veut dire que c'est de les booster. Personne ne peut jouer le rôle de l'État à sa place. C'est de les booster, c'est de montrer, comme on appelle, c'est de les réveiller. C'est de réveiller l'État à s'attimer, à prendre ses responsabilités. C'est tout ce qu'on peut faire. Et maintenant, ce qui est comme on appelle la justice privée dont ils ont parlé, ça va continuer. Parce que si je vois que l'État qui est censé me protéger ne joue pas son rôle, n'arrive pas à me protéger, je vais chercher les voies et moyens pour me protéger. Et c'est ce qui va donner comme on appelle le résultat de la justice privée. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça est en train de prendre une forme du communautarisme, comme ils l'ont dit. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est les Arabes qui ont été tués à Tagoy. Maintenant, les sédentaires, c'est les sédentaires qui les ont tués. C'est ce qu'eux, ils pensent. Et maintenant, il faut faire des représailles contre les sédentaires. C'est ce qui est en train de se passer. Les sédentaires aussi ne vont pas se laisser faire. Ils vont chercher les voies et moyens pour faire des représailles contre eux. Alors que cela n'arrange personne. Mais malheureusement, si l'État ne prend pas de responsabilité, c'est ce qui va se passer.
D'accord.
Et ça risque même d'aller même au-delà. Au-delà, comme on appelle, des théories simples, ça va aller à une génocide. L'élimination systématique d'un peuple. Et là, d'une écrit, là, je vous dis que c'est on est en train de partir vers ça.
D'accord, Monsieur Samba. Oui, alors, d'accord, Monsieur Samba. Alors, Monsieur l'Arabe, que pensez-vous des propos de Monsieur Samba?
J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Être ou ne pas être. Il répète, moi je crois que je ne veux pas me dédire, hein. Il répète que si l'État ne prend pas ses responsabilités, ça va essayer de tourner au vinaigre. Ça ne retourne à rien. Depuis 90, ils sont dans la même situation. Je comprends ce qu'il dit et il est bien nécessaire qu'il se revoie. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais si ça doit arriver, parce que je suis un observateur et aussi je suis quelqu'un qui a partagé un peu cette histoire, je m'y connais un peu, on voit des indices. Et quand en réalité, vous savez, il y a cinq choses, l'imagination, le bavardage, qui sont comme des formes de malédiction. La sexualité excessive, le bavardage qui sont retenus. À Gao, on parle. À Gao, on parle et ce qu'ils font n'est pas minime. Force est de reconnaître que, à partir de Mopti, derrière le fleuve, en face du gouverneur, jusqu'au Niger, le Mali n'existe pas. Ceux qui sont en réalité comme gouverneur, comme préfet, qui sont en poste, ceux qui réfléchissent, ceux qui conçoivent tout cela, parce qu'ailleurs, il y a des hommes qui réfléchissent, comprennent, ils l'acceptent comme tel. Et toute cette histoire se gère par l'État. L'État aussi sait ce qu'il pose. Ce qui est sûr et qu'on n'a pas besoin de nous expliquer, c'est que de 90 à maintenant, l'État n'est pas dans une logique au jour d'aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème dans lequel l'État, l'armée malienne doit intervenir, même si elle est mise en route pour poursuivre depuis 91 jusqu'à présent, des assaillants ou des malfaiteurs, ils peuvent à la limite sortir de la ville. Ils se cherchent un petit mouton à griller ou autre là. Ils sortent parce qu'ils ont des indemnités ou autre là. Ils ne feront rien et on ne peut pas les blâmer.
Et pourquoi la situation ne change-t-elle pas?
On ne peut pas les blâmer parce que véritablement, ils savent qu'en haut lieu, on fait semblant et ils s'ajustent à ça. Ce mot, c'est un mot que j'aime bien. C'est un mot et ils s'ajustent. En réalité, ces gens, ils aiment bien le Mali, ils aiment bien leur vie, ils aiment bien se protéger. Mais on les a mis dans une situation de précarité. Mais ces gens-là, qui les arment? Combien de temps ils ont été formés? On a payé des avions. Pendant qu'on payait des avions, c'est sur des Jakarta qu'ils tuent l'armée malienne. Avant de chercher de l'avion pour aller dans le désert, ceux qui sont derrière la ville, ceux qui sont dans Bamako, qu'est-ce qu'on leur fait? Regardons depuis au niveau de l'accord. Quand il y a un contrat, mademoiselle, entre vous et moi, il y a la qualité morale et l'engagement, ce que l'on appelle engagement, notre volonté de régler le problème. Il y a l'État, il y a la plateforme, il y a la CIMA. Essayez de voir en réalité la capacité d'être responsable, la capacité de comprendre la situation, la capacité de se transcender entre ces trois parties. Il y a déjà, quand tu regardes l'État dans l'article premier de l'accord, de 1 à G ou H, 8 points, on consacre que l'État existe. Dans le deuxième, on parle de bonne foi, il n'y a jamais eu de bonne foi. Dans le troisième, on nie même la Constitution. C'est que même l'État à partir de là n'existe pas. Et quand on regarde à l'intérieur de l'accord, ça nie l'État. On est dans une désagrégation programmée. Et ceux qui désagrègent l'État, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la population malienne, ce n'est pas parce que c'est des grands humanistes, mais c'est la qualité de la gouvernance et c'est ce qui peut être possible maintenant pour le Mali.
D'accord. Oui, M. Maïga.
Merci bien. Okay. Véritablement, vous touchez du doigt le problème, M. Lara. Okay, c'est qu'il y a une politique systématique de désagrégation de l'État du Mali. C'est ce à quoi on assiste. Et je comprends dans ce sens, l'unmitisme et l'inaction de l'État du Mali. Il y a des situations assez simples qui peuvent être maîtrisées par un État qui a quand même 20 000, 30 000 hommes disponibles, tout de suite mobilisables sur le territoire, et qui ne le fait pas. La route Sévaré-Gao peut être sécurisée par des convois. En tout cas, au moins, les convois civils, militaires, les convois de marchandises peuvent être sécurisés. Ce n'est pas fait. Donc, il n'y a pas de volonté de parvenir. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette situation qui prévaut dans la région de Gao et qui peut s'étendre partout, c'est qu'on ne sait plus qui est porteur d'armes. Peut-être que cette situation entre les communautés sédentaires noires et les communautés arabes a été créée de toutes pièces. Des personnes extérieures sont venues justement créer des victimes et finalement les deux communautés, parce qu'on ne sait plus qui est qui, parce que tout le monde est armé dans la zone. L'État ne joue pas son rôle. Il faudrait qu'on corrige cet aspect-là. Tant qu'on ne le fait pas, alors on va de mal en pis. Moi, je quelque part, Bureau de l'Arabe, je ne suis pas d'accord avec vous que cette situation est statique depuis 92. Non! Ça s'est empiré ces dernières années, simplement. Ça s'est empiré parce qu'il y a eu des éléments nouveaux. Il y a eu des partenaires extérieurs multiples qui se sont... avant, on avait juste peut-être l'Algérie, quelquefois la France qui s'immisce, la Suisse, ok. Mais aujourd'hui, c'est une foultitude de partenaires. Qu'on sait pas. Est-ce que c'est des amis déclarés amis de l'État du Mali? Ce qui est totalement faux, parce que le Mali fait partie de la communauté internationale et... La communauté internationale, à la tête l'ONU, donc la MINUSMA, agit vis-à-vis du Mali comme si c'était n'importe quel organisme, entre guillemets, non étatique, à côté des groupes armés, qui est logé à la même enseigne que le groupe armé et traité comme tel. Cela doit s'arrêter, l'État doit hausser le ton, à moins que les tenants de l'État ne soient dans ce jeu de dupes, parce qu'on est dans un jeu de dupes. Je ne peux pas comprendre que l'État, la diplomatie malienne, ne puisse pas exiger un minimum de respect vis-à-vis de l'État en tant qu'État, dans le concert des nations, à côté de groupes armés qui ne représentent pas justement les populations qu'ils déclarent vouloir défendre. Ça, c'est clair pour moi. Alors, pourquoi nous sommes toujours dans cette situation, dans ce déni d'État par l'État lui-même? Et ça, c'est très grave.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour régler ce problème?
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'État devienne un État. Aujourd'hui, quand des personnes marchent ici à Bamako, ils sont tabassés. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui empêche de le faire à Gao? Qu'est-ce qui empêche de cantonner des groupes armés, de leur dire, ok, personne ne circule dans la ville de Gao si vous n'êtes autorisé avec des armes. C'est clair et net et c'est faisable à Gao puisque nous avons des milliers de militaires qui peuvent maîtriser la situation. Les sorties et les entrées de Gao, ce n'est pas fait. Et on parle de tout, il y a toute une foultitude de personnes là-bas, de groupes qui se créent. Comme ça, vous avez dit les signataires de l'accord. Mais dites-vous qu'à côté, il y a beaucoup d'autres groupes qui ne sont pas dans cette logique et qui constituent le grain de sable dans justement ce qui a été convenu entre Alger et qui a été signé à Bamako. Il y a des problèmes qu'il faut régler. Et ce n'est pas du tout la veille où nous trouvons aujourd'hui pour cette solution. Il faut que l'État devienne État.
D'accord.
Et qu'on puisse avancer.
Merci, monsieur Maïga. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Juste, oui, allez-y.
Un petit mot.
Oui.
J'avoue que pour la première fois, j'ai eu un débatteur qui parle comme moi. Et il est courageux. Il dit ce que. On dirait que je lui ai dit de dire tout ce qu'il a dit. Vous vous rappelez, Dani? On dirait que je lui ai dit de dire tout. Et j'aime bien cela. Par contre, quand il a constaté que je pense que c'est statique, non. Vous savez bien que je réfléchis. Il n'y a pas de situation statique. Les situations changent. Ça peut être en dents de scie, ça peut. C'est pas statique. Je suis d'accord avec moi. Ça fait mieux que plus que s'empirer. Ça ne met pas l'État en cause. Ça met l'État dans une situation où l'État accepte de ne pas exister.
D'accord. Merci, monsieur l'Arabe. Cela me fait à ce débat sur l'insécurité. Merci à nos invités. Abdoul Karim Samba, membre du Conseil régional de la jeunesse de Gao. Boubacar Baba l'Arabe. C'est ça cette fois-ci? Ok. Inspecteur du Trésor à la retraite, Ibrahim Kassamega, juriste. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Salim Diouara. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation d'Ibrahim Diallo et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi,
Redewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry, c'est